Devoir de Louise Razavet. Alors, Louise, ce que j'apprécie, alors c'est plutôt moyen, hein. Ce que j'apprécie dans ton devoir, c'est que tu rentres directement dans le vif du sujet avec des documents, mais après, tu n'arrives pas à construire un plan qui puisse répondre véritablement à tout ce que suppose le sujet, et tu perds un peu de temps, je trouve, en deuxième partie, et puis surtout, tu n'as pas vraiment compris. Le sens profond du document 2, de la lettre de Khrouchtchev à Castro. Si tu veux bien, on reprend ensemble, un petit peu court peut-être sur le contexte du document, des documents, peut-être dire qu'on est dans la période un petit peu compliquée et chaude de la guerre froide, hein, donc avec de multiples crises depuis moins de 20 ans quand même, hein, donc ici, et puisque ça commence véritablement en 1947, hein, la guerre froide, donc on est quand même moins de 20 ans, ouais, ça fait 15 ans. Et donc, avec sans doute une référence peut-être à la crise du mur de Berlin l'année précédente. Hein. Ce qui est bien, c'est que tu as dit que John Fitzgerald Kennedy était au début de son mandat. Bon, tu parles de tournant, oui. Alors, moi je te donne tout de suite le plan. Un tournant, pourquoi ? Ben, parce que c'est une crise de guerre froide, parce que, ben, évidemment, l'URSS provoque les États-Unis. Bon, on est dans du classique. C'est une crise de guerre froide aussi parce qu'on trouve les moyens de ne pas tomber dans le gouffre. C'est une diplomatie au bord du gouffre et la négociation que tu as repérée s'est engagée et on aboutit à un accord informel qui fait que la crise est résolue. Et puis troisième point, c'est aussi une crise de guerre froide qui annonce un tournant des relations internationales avec une cogestion donc, des relations internationales par les deux grands qui les amène à malmener donc, leurs alliés, à les dominer complètement, et c'est bien le cas dans le document 2 quand on voit toute la condescendance et les appels au calme hein, que Khrouchtchev prodigue à Castro, qui est finalement le dindon de cette histoire, le dindon de la farce, hein, puisqu'il n'a pas, il voulait diffuser, il n'en a pas. Hein. Alors, allons-y, la crise de Cuba est une crise de la guerre froide car elle illustre les tensions directes entre les deux grands. Bon, je suis plutôt d'accord, hein, donc là. Cuba est un atout géopolitique pour l'URSS, bien sûr, qui souhaite y répandre son influence, enfin au moins qui est contente de voir qu'elle a un allié dans une région qui est complètement dominée par les États-Unis, c'est l'hémisphère occidental, c'est leur précaré, et donc c'est véritablement une provocation. Hein. Donc, les conditions, hein, les États-Unis découvrent les rampes de lancement, d'accord. Alors, je trouve que tu aurais pu, donc sur le discours de Kennedy, insister sur l'importance qu'il a, sur le fait qu'il soit écouté par des millions d'Américains, qu'ici, il est écouté aussi dans le monde entier, hein, et donc on se demande ce qui va se passer, et qu'il menace, hein, même s'il y est vraiment contraint d'utiliser la bombe nucléaire, qui laisserait donc un goût de sang dans la bouche, y compris aux Américains. Donc il est prêt. Hein. Bon, il se montre très ferme, je vais t'expliquer pourquoi. Donc là c'est intéressant de voir les conditions de ce discours. Hein. Donc il est dans son rôle, hein, donc au début, parce qu'il a découvert quoi ? Eh bien, ce que tu as dit, hein, donc les rampes de lancement. Alors, la tension est directe. Voilà, moi je ne citerai pas tout de suite notre Khrouchtchev, hein, donc ligne 2, notre message permet à la crise d'être réglée, j'évoquerai les négociations après. Et donc, il fait référence à l'envoi de militaires, hein, mais également donc de militaires. De la part de qui ? Alors, je vois que tu n'utilises pas le terme qu'il aurait fallu utiliser au-dessus. Hein, donc, pour les États-Unis, qui envoient aussi des militaires, comme tu dis, des Marines, c'est un blocus. Hein, ils établissent une quarantaine, un blocus. Alors, Kennedy utilise le terme de quarantaine, hein, qui est moins agressif, mais qui empêche toute liaison avec l'île. Et donc ça, c'est important à comprendre parce que les navires soviétiques sont en train de traverser l'Atlantique pour continuer à installer ces fusées. Bon, tu fais allusion à la baie des cochons et tu te trompes. Hein. C'est en 1961, ce n'est pas du tout les États-Unis. Ils ne se seraient pas risqués quand même à cela, hein, à faire donc une invasion comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs maintes fois. Hein. Et le referont à la Grenade en 83. Mais là, ils ne se risquent pas donc, à débarquer eux-mêmes. Ils poussent et ils entraînent d'abord. La CIA entraîne des anti-castristes qui ont fui le régime de Fidel Castro et qui se sont réfugiés en Floride. Et donc, ils sont entraînés par la CIA. Et ce sont des Cubains hein, donc, qui débarquent dans la baie des cochons et qui se font étrier hein, donc, par d'autres Cubains, hein, donc menés par ceux qui dominent l'île avec Fidel Castro. Et là, tu te trompes, tu vois. Donc, par contre, l'analyse est importante. Ça a fragilisé donc très bien, hein, donc effectivement Kennedy, et donc il doit donner des gages de fermeté, non seulement à son opinion donc nationale, mais aussi à l'opinion internationale et aux dirigeants internationaux, et surtout ceux de son camp. Donc il est très ferme. Alors, après, tu me parles des négociations, tu vois, tu commences à... si des tensions et des actions militaires directes sont visibles, des relations directes entre les États-Unis et l'URSS semblent aussi avoir lieu. Ce sont les négociations. Moi, j'en aurais fait une deuxième partie. Et donc, je reproblématise. Je dis que c'est une crise de guerre froide parce qu'il y a tension, on vient de l'expliquer, mais aussi parce qu'il y a négociation. On fait une diplomatie au bord du gouffre, hein, là, parce que la tension est maximale, mais on discute quand même pour éviter, évidemment, l'affrontement direct. C'est la guerre froide. Et donc là, eh bien, c'est tout ce qui concerne les échanges. Hein, notre message du 27 octobre au président Kennedy, ligne 2. Hein, la réponse de Kennedy, ligne 4. Nous avons fini mes messages des 26 et 27 octobre 62. Donc, ligne 7, nous avons fini de rédiger notre réponse, ligne 8, donc, ou 7, je ne me rappelle plus. Donc voilà. Et donc, il y a de multiples échanges, pas encore par le télétype, hein, parce qu'il n'est pas encore établi, mais des multiples échanges par ambassadeurs et puis diplomates interposés, hein, pour essayer les navires soviétiques avancent vers le blocus. Hein, donc voilà. Et au dernier moment, eh bien. Avec une forme de théâtralisation de la part de Kennedy aussi. Hein. Donc ici, comme on le voit, à son air ferme, enfin son ton ferme, mais voilà, hein, donc décidé, hein, on voit cette théâtralisation cache en fait des négociations intenses derrière. Et donc on obtient un accord. Un accord informel, hein, pas signé, mais voilà. Les navires soviétiques se détournent donc du blocus. Kennedy promet de ne pas envahir l'île, donc ligne 5, hein, ici. Et tu sais aussi que des missiles donc, de l'OTAN sont retirés en Turquie. Hein, tu pouvais l'ajouter. Voilà. Et donc, diplomatie. Et enfin, dernière partie, et celle-là, tu ne l'as pas vue, la dernière partie, c'est que la guerre froide, eh bien, elle fait que ce sont les deux grands qui décident, et que l'ONU est complètement mise de côté, elle n'est utilisée que comme forum, hein, donc théâtre où on peut exposer les griefs, là on montre les photos, hein, donc lors de la séance de l'ONU du 25 octobre, les photos des rampes de missiles, pour prouver internationalement que l'URSS est en tort, hein, mais de toute façon l'URSS n'écoute pas, évidemment, hein, c'est le jeu. Et puis ensuite, les véritables négociations se sont déroulées entre les deux, et il faut calmer Castro, parce que Castro n'a pas de fusée, hein, et il pense toujours être à la merci des États-Unis, et il ne croit pas à la promesse des États-Unis de ne pas envahir l'île. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Hier, vous avez abattu un de ses appareils. Hein, donc, ligne 14, 13, 14. Il a abattu un avion espion U-2 qui surveillait l'ennemi. Et donc, il s'est écrasé à la Havane. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de torpiller l'accord qui a été obtenu. Donc, Khrouchtchev le gronde. Et ça se voit. Je vous recommande de ne pas vous laisser emporter par vos émotions et de faire preuve de force de caractère. Ligne 9 et 10. J'aimerais vous conseiller, ligne 15 et 16, de façon amicale, regarde un petit peu comme c'est condescendant, hein, de faire preuve de patience, de fermeté, encore plus de fermeté. Il lui dit « calme-toi, hein, sinon ça va mal aller ». Et donc, il lui dit « nous ne pouvons nous permettre de répondre aux provocations ». Il manie, hein, la carotte et le bâton, et donc il le gronde, puis en même temps il lui rappelle qu'ils sont du même côté. Il désigne les Américains comme des militaristes déchaînés, hein, il rappelle qu'ils veulent tous construire une société socialiste, hein, donc tous les communistes, et voilà, hein, donc il rappelle que les États-Unis ont violé le droit international, hein, donc c'est sans doute l'allusion à la baie des cochons, hein, qu'on aurait pu utiliser en première partie, hein, donc ça on est à la ligne 11. Voilà ce que je te reproche. Donc tu vois, ici, tu cites exactement les mêmes parties. Là, j'aimerais vous conseiller de façon à avoir les mêmes extraits, mais tu ne les analyses pas, hein, donc suffisamment. Alors, après, tu pars sur des considérations qui sont plutôt moins bien reliées à la problématique. Hein. Tu parles d'expansion, j'ai entouré, pour l'URSS. je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas quand tu dis Kennedy pénalise et scandalise les rampes. Non, il dénonce. C'est mal dit, là. Bon, c'est une expression, c'est tout. Et puis, dans le document 2, Khrouchtchev met en garde Castro. Hein, donc, voilà, c'est de la paraphrase. Il fait tout pour placer les États-Unis en position d'agresseur. Mais non, et là, il est en train de. C'est autre chose. Hein. Et donc, la crise de Cuba, donc, eh bien, une crise de guerre froide, d'accord. Tu dis qu'elle accentue l'opposition entre. Mais non, l'opposition est déjà là. Au contraire. On se rend compte que il va falloir dominer les crises, mieux les encadrer, donc le télétype, et puis on se promet bien de ne plus en arriver à ce niveau d'affrontement, et donc et on se dit il faut maîtriser ses pions, chacun maîtrise ses pions, ses alliés, et puis surtout on n'intervient pas dans la sphère d'influence de l'autre, donc l'URSS. Bon, même si elle pousse des révolutionnaires comme Che Guevara, par exemple, même si elle appuie le gouvernement de Pinochet au Chili, donc en 70, bon, et puis d'autres guérillas donc dans les pays d'Amérique latine, mais jamais, elle n'en verra, comme elle l'a fait, hein, donc des engins nucléaires sur ce territoire-là. Et de la même façon, les Américains protesteront contre, en 68, la Tchécoslovaquie, voit le printemps de Prague réprimé par les chars soviétiques, mais tu penses bien qu'ils vont pas, c'est tout, ils protestent diplomatiquement. Donc, tu vois, je trouve qu'il manque cette dimension-là d'analyse. La structure de ton plan, donc de ton devoir, t'amène à ne pas assez insister sur la négociation. Hein, et donc, il y a des choses, mais il faut franchir encore. Hein, il faut franchir un niveau. Et donc, je mets 11. Hein, bon, c'est bien que tu fasses ce galop d'essai. Il faut viser maintenant le deuxième galop en se disant, je tiens, au moins, je regarde les documents, ce qui est déjà pas mal, hein, j'essaie de les analyser, mais il faut aller encore plus loin et peut-être se dire, je travaille un petit peu la problématique, hein, c'est une crise de guerre froide, mais il va falloir que je construise un plan, et un plan qui soit un peu dynamique. Hein, et donc, on trouve la réponse dans l'analyse des documents. C'est encourageant de toute manière, Louise. Hein. Donc, tu es régulière, tu es là, tu es présente, tu es impliquée. Je ne saurais que trop de continuer à t'encourager à viser le concours, hein, bien sûr.